Beaucoup de gens aiment énormément, c'est Saint-Philippe Néri, qui est fondateur de la Congrégation de l'Oratoire. C'est un saint de l'humour, un saint de la blague, un saint qui avait tellement le sens de la blague que d'ailleurs les papes l'ont fait venir pour voir au juste qu'est-ce qu'il en était. Il vivait à Rome au moment de la réforme protestante. Il est né en effet en 1515 et il est mort en 1595, donc à 80 ans. Et c'est en 1517, 2 ans après sa naissance, n'est-ce pas, que Luther affiche son désir de réformer vraiment l'Église, ce qui l'a mené finalement à se séparer malheureusement de l'Église et engendrer ce qu'on appelle le luthéranisme, cette Église, cette grande Église, sœur de l'Église catholique. Saint-Philippe Néri avait tellement le sens de la blague que je vous donne quelques idées avant de commencer sa vie, parce que c'est vraiment tellement spécial. Une matrone, une bonne femme à Rome, s'accuse sans aucun regret, n'est-ce pas, d'avoir médit très très souvent de toutes sortes de personnes. Alors, plus ou moins terrifié, Saint-Philippe Néri, qui était prêtre, qui était ordonné prêtre tard, si je me souviens bien, à 36 ans, c'était un laïc très actif avant. Alors il lui dit, vous plumerez une poule, et tout en marchant dans la rue. Alors 8 jours après, Saint-Philippe Néri interroge cette femme qui revient s'accuser de médisance encore, et il lui dit, avez-vous accompli, ma fille, la pénitence que je vous avais imposée? Alors elle dit, en tout point, mon père. Alors aujourd'hui, prenez le même chemin. Vous me rapporterez toutes les plumes que vous avez semées. Je vous rappelle, il lui avait dit, vous plumerez une poule tout en marchant dans la rue. Et alors la femme lui dit, mais c'est impossible, padre. Alors il lui répond, il est pareillement impossible, ma fille, de rattraper les paroles médisantes que vous semez à longueur de journée. C'était un confesseur assez spécial. On raconte aussi que un homme qui avait une très belle chevelure et puis qui se promenait avec sa belle chevelure, il lui dit à ce jeune garçon, « Va te faire tondre comme un frère convert. » Alors, pour un type un peu vaniteux qui porte un splendide costume, il lui dit, « Avec ton bel habit tout neuf, promène-toi sur le parvis de la basilique Sainte-Marie-Majeure et place-toi bien au beau milieu des clochards. » C'était un original et qui me rappelle, je m'en excuse, mais il me rappelle celui que j'ai connu dans mon enfance et que tout le monde connaît, le père Ambroise Lafortune, qui était très blagueur aussi. J'ai jamais eu l'occasion de me confesser à lui, mais je me soupçonne d'avoir été capable de dire au confessionnal des choses similaires. Je crois bien qu'à travers l'histoire de l'Église et Philippe Néri, il y en a eu beaucoup. Car l'humour a habité bien des prêtres. J'en ai connu, qui étaient pleins d'humour. J'en ai même connu à l'intérieur des monastères. J'en ai connu dans toutes sortes de congrégations. La joie existe chez les chrétiens. Elle est présente. Et une des belles prières que l'on peut faire à Dieu, c'est bien, Dieu, c'est ta joie. C'est ta joie que la bonté règne parmi les hommes. Que ceux qui pleurent soient consolés. Que ceux qui sont seuls trouvent une maison. Donne-nous de chercher cette joie. Inspire-nous des pensées de paix et des paroles d'espérance. Et comble nos bons désirs au-delà de notre attente par le Christ notre Seigneur. C'est le saint de la joie aujourd'hui, Saint-Philippe Néri. Le saint humoristique, comme disait Goethe. L'apôtre de Rome, donc au XVIe siècle, bouscule les images convenues de la sainteté. À l'heure où la réforme du Concile de Trente impose une stricte discipline en mettant bien en place le Saint-Office, l'Index, l'Inquisition, eh bien lui, Philippe Néri, y rassure, y console. Il attire sur le chemin de Dieu. Comme il dit, avec grande joie et facilité, ceux qui se confient à lui. Et on peut dire que de toutes les figures de saints qui ont apporté leur Pierre à la réforme du Concile de Trente au XVIe siècle, celle de Philippe Néri est l'une des plus pittoresques et des plus attachantes. On peut dire que cet homme emporte l'adhésion de la plupart des catholiques, la plupart même des gens non catholiques, qui ont étudié sa vie. Son humour, sa verve moqueuse, son aptitude naturelle à la joie, qui tranche avec tellement de pratiques austères à cette époque, on en a parlé dans d'autres vies de saints, quoiqu'il était austère aussi pour lui-même, mais tout ça, ça lui a attiré de nombreux disciples. Et on peut dire que cette allégresse qui habitait son cœur venait au fond du sentiment constant de la présence de Dieu. Quand on est constamment en présence de Dieu, comment ne pas être joyeux et vivre dans l'allégresse? Peut-on être triste? Quelle est l'idée de ces chrétiens qui se plaignent quand ils savent que Dieu est présent, dans tout son amour, dans toute sa tendresse, que Dieu est là, hein? Ça me rappelle, je crois vous l'avoir mentionné, cette sainte québécoise absolument admirable, qui était paralysée presque toute sa vie. Et quand j'étais allé l'interviewer au début de ma carrière de réalisateur, au début des années 60, j'étais allé au foyer de charité, elle s'appelait Annette Deshôtels. Et à la fin de l'entrevue, nous lui avions demandé... D'où vous vient ce sourire qui vous habite constamment? Et elle avait répondu que c'était un secret et qu'elle ne pouvait pas révéler ça à la télévision. Et en insistant, en lui disant qu'on garderait le secret, elle a souri légèrement, car c'est à peu près tout ce qu'elle pouvait faire avec son corps. Légèrement sourire, bouger un peu le regard et parler un filet de voix. Tout son corps était paralysé. Elle a dit, c'est que... J'aime tellement le bon Dieu, et je suis si sûr qu'il m'aime. Elle vivait dans la présence de Dieu, et c'est ce qui la rendait heureuse au cru de cette souffrance abominable. Mais avant de saisir la profondeur de la spiritualité de saint Philippe Néri, puis de connaître les dons incroyables, les faveurs mystiques dont il a été comblé, c'est un saint absolument extraordinaire. Mais on y est conquis d'abord par ses qualités naturelles. Il avait une tendresse, une grande tendresse, qui rayonnait partout dans le cœur des jeunes gens comme des vieilles femmes, des gens riches, les cardinaux, même les papes ont été saisis les uns après les autres. Il y avait là un mélange de perspicacité, puis un mélange de drôlerie. Je vous en ai donné quelques exemples tout à l'heure, mais il y en a bien d'autres. Puis en plus de ça, bien, il était très sensible à la musique, puis à la beauté de la nature. C'était un homme réaliste, plein de bon sens. Puis il était on pourrait dire, en prise là, sur la vie. Quand il a fondé sa congrégation qu'on appelle l'Oratoire, peut-être connaissez-vous cette congrégation de prêtres séculiers qu'on appelle l'Oratoire, je vous donne trois noms de gens qui sont entrés à l'Oratoire. Le cardinal Newman, éminent anglican du siècle dernier, qui est devenu prêtre catholique, qui est nommé cardinal, était membre de l'Oratoire. Les anglicans de la High Church apprécient beaucoup le cardinal John Henry Newman. Et comme je vous ai déjà dit, ont même réclamé, il y a une trentaine d'années, sa canonisation à Rome. Louis Bouillet, un fameux pasteur protestant français merveilleux, qui est resté très attaché à ses frères protestants tout en devenant catholique. Il est devenu l'un des plus grands savants catholiques de ce siècle, je dirais un des plus grands savants chrétiens, tellement il était fidèle dans un certain sens à l'Église réformée de France d'où il venait. Louis Bouillet, auteur d'innombrables ouvrages. Et aussi François Wang, que j'ai bien aimé, que j'ai même reçu chez moi, qui était un homme absolument fantastique, que j'ai connu il y a 25 ans, un Chinois qui était allé à Paris faire des études avant la guerre, à la fin des années 30, et il a été pris par la guerre en France, et il a combattu avec les Français, lui, jeune étudiant, avec Chuan Lai, le fameux Chuan Lai, qui était un de ses meilleurs amis. Et une nuit, il aperçut que l'un des membres combattants de la France, qui voulait libérer la France des Allemands, priait la nuit. Il avait un livre avec des tranches dorées. Il lui a demandé ce que c'était. Il s'est rendu compte que c'était un livre de prière, a demandé des renseignements. Et finalement, il est devenu prêtre. Puis il est entré à l'oratoire fondé par Saint-Philippe Néri. Et ce François Wang est devenu l'un des plus grands prêtres français. Mais il était tout à fait chinois, ami de Chuen Lai. Et Chuen Lai, à un moment de temporisation en Chine communiste, l'avait fait venir en Chine pour le revoir. Et ils se sont embrassés. Chuen Lai demeuré franchement communiste. Et François Wang, devenu prêtre catholique. C'était un homme merveilleux que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors l'oratoire a su rallier des gens, même sous la juridiction de Saint-Philippe Néri, des gens extraordinaires qui sont devenus cardinaux, qui étaient des gens puissants dans la société et qui se sont décidés à devenir des prêtres joyeux et actifs au sein de l'oratoire. Le soin des âmes se confiait à Saint-Philippe Néri, mais c'était là son seul objectif. C'était le seul objectif de cette congrégation. Philippe Néri leur proposait un chemin qui passait par le cœur, puis la sensibilité. Pour lui, la mélancolie était mauvaise conseillère. Il mettait la joie en bonne place, à côté de la simplicité et de la douceur. Il ne réclamait aucune austérité rebutante, mais une piété vraiment affective. Un peu comme on retrouve dans certaines parties du mouvement charismatique de bon aloi, en France et ici, où on cherche à prier avec affection, avec tendresse, avec émotion un peu. Il ne faut pas déborder outre mesure. Il savait lui-même, Saint-Philippe Néri, ramener les choses à leur bonne place. Il était très, très, très insistant sur des actes de charité. Mettre en pratique ce que l'on dit et ce que l'on prie. Il voulait des assemblées chaleureuses, où les qualités naturelles se développent. En somme, la doctrine qu'il professe se puise aux sources les plus classiques de la foi chrétienne, de la foi catholique. Mais la méthode d'apostolat laisse une place constamment à l'inspiration, au dialogue, puis même à l'improvisation. On peut dire que, avec un de ses disciples, que son œuvre, sa vie spirituelle, était marquée d'un caractère familier puis humain. Familier et humain. Est-ce que c'est pas là que tout ce que nous cherchons, nous, dans l'Église, d'avoir une famille, et que ce soit humain, dans le bon sens du mot, là, sans négliger, au contraire, en mettant au sein de l'humain la présence de Dieu et les grandes valeurs spirituelles de la prière, même de la cèse, du courage, la charité. En somme, rien de plus étranger à l'esprit de Philippe Néri que les idées de règlement, de codification puis de hiérarchie. Ces notions qui étaient chères aux grands fondateurs des autres ordres. Il disait, si tu veux qu'on t'obéisse, il le disait avec humour, si tu veux qu'on t'obéisse, ne fais pas de commandement. Il était vraiment spécial. Il disait toujours que le souhaitable passe toujours par le possible. On ne voulait pas chercher les choses impossibles. En somme, le caractère si particulier de sa congrégation, l'oratoire, c'est que c'était une congrégation séculière, sans vœux obligatoires, sans règles trop assujettissantes. C'était une congrégation dotée d'une organisation absolument démocratique, puis absolument jalouse de son indépendance. En somme, dans le climat de la grande réforme catholique romaine du XVIe siècle, le Concile de Trente, au service de laquelle se sont mises des personnalités très connues, aussi fortes, aussi rigoureuses et parfois implacables que le pape Paul IV, que Saint Ignace de Loyola, qui était implacable, Saint Charles Borromée, archevêque de Milan, qui était très strict, Saint Pie V, qui était très, très dur, qui a fait venir Philippe Néri, mais qui a compris Philippe Néri. Mais Philippe Néri, lui, se ferait toujours un chemin original. Il humanise la religion. Il invente un modèle de confiance, puis de modération. On peut dire vers lequel tout le 17e siècle, le siècle suivant, va se retourner volontiers. C'est à ce moment-là, un peu plus tard, que vont naître des congrégations comme celle de Sainte-Marguerite Bourgeois, que l'on connaît bien, les congrégations Notre-Dame, ces femmes qui ont su dans la joie se séparer du cloître et marcher dans la rue avec tout le monde. Parce que toutes les sœurs étaient cloîtrées à l'époque, il faut bien penser à ça. Et les hommes avaient tendance à avoir des règlements qui frisaient le cloître. Je me souviens quand j'étais jeune au collège Brébeuf, dans le collège, il y avait un cloître où on ne pouvait jamais rentrer. C'est là qu'habitaient les jésuites, qui étaient semi-cloîtrés en somme. Alors, on peut dire que, avec saint François de Sales, la vie spirituelle, avec Philippe Néri, est accessible à chacun et à tous, en tout état. Et François de Sales a mis ça en pratique, lui. Alors, le bon petit Philippe Néri, tout jeune, on l'appelait le bon Pippo. Buono Pippo. Et très jeune, il était un gamin joyeux, farceur, mais profondément pieux. C'était pas un petit farceur, puis un petit joyeux niaiseux. Pas du tout. Pas du tout. Son père, qui était un petit notaire à Florence, était passionné d'alchimie. Faut dire qu'il a grandi à Florence, dans cette belle ville. Mais il a perdu sa mère très jeune. Puis il a été élevé par une belle-mère qui était très affectueuse et très gaie. Quand il était adolescent, il aimait fréquenter les dominicains du beau couvent de Saint-Marc, qui a été décoré par Frangelico. Quel beau couvent que Saint-Marc! Mais c'est là qu'il s'est passionné pour la vie de Savonarole, le fameux dominicain qui a été brûlé. C'était une passion pour lui, que partagent d'ailleurs à l'époque beaucoup de Florentins. Car la ville de Florence s'efforce à ce moment-là de chasser les Médicis qui règnent sur la ville. Puis ils veulent mettre à la place un gouvernement populaire vers 1529. Je vous rappelle qu'il est né, lui, en 1515, Philippe Néri. Il avait donc à peu près 14 ans. Peut-être que Philippe doit son goût de la liberté puis son horreur du pouvoir absolu à ce spectacle des événements qui ont bouleversé alors la ville de Florence sous l'influence de Savonarole, qui était moine dominicain, je vous rappelle. C'est très beau de lire le procès de Savonarole et sa vie. Très, très beau. C'est un très grand prédicateur, très audacieux, qui demandait vraiment à ce que les catholiques soient de vrais chrétiens. Mais ça déplut, sous certains rapports, aux grandes autorités mondaines, qui, tout en se réclamant du catholicisme, préféraient leur propre orgueil et leur propre vanité. En 1533, les affaires financières de son père notaire étaient plutôt mauvaises. Alors ce jeune Pippo, qui avait 18 ans, est parti pour San Germano, une petite ville situé tout près du Mont Cassin. On revient encore au Mont Cassin. Je vous rappelle que Radio Ville-Marie est située avenue du Mont Cassin à Montréal, près de la rue Meilleur et de la rue Fleury. Et alors, le Mont Cassin, qui était un monastère bénédictin extrêmement important, il l'a fréquenté un peu. Et là, à San Germano, il a appris le commerce auprès de son oncle, Romolo, qui était très riche. Mais le négoce ne l'attire pas. C'est un peu comme quelqu'un qui se rend aux études commerciales et qui finalement change d'avis un peu. On voit ça des fois. Quelqu'un qui a fait ses études aux études commerciales, puis il rentre dans un monastère. J'en connais. Et alors, il a probablement visité Mont Cassin, évidemment. Puis il a connu à cette époque la douceur des joies mystiques. Alors il hésite, il se demande s'il doit devenir un moine ou bien quitter son oncle et se rendre à Rome. Et il quitte son oncle, et ainsi il quitte l'héritage d'une immense fortune, car son oncle était très riche, mais il préfère aller au cœur du monde chrétien à Rome, lui, jeune Florentin. Alors Philippe Néri, à Rome, rencontre un de ses compatriotes, Galeotto Caccia, qui lui offre le vivre, le couvert, en échange de quoi Philippe Néri se charge de l'instruction de ses deux fils. Puis alors, chez les Caccia, Philippe Néri demeure là 14 ans, comme laïc. Il fréquente l'université de la Sapience, ou si vous voulez, de la Sagesse. À Rome, il suit des cours de théologie chez les moines augustins. Les moines augustins auxquels appartenait Luther, et Luther était un moine augustin. Mais on le voit aussi fréquemment qui parcourt les rues de la ville, et puis il s'unit à des ermites. À l'époque, il y avait des ermites qui parcouraient les rues de Rome, qui voulaient la réforme de l'Église catholique, parce qu'il y avait les protestants d'une part, les luthériens qui faisaient cette réforme, mais séparés de l'Église, et eux, ils la voulaient à l'intérieur. Il y avait des prédicateurs ambulants, parfois assez excentriques, hein, qui interpellaient les passants pour les ramener à une vie meilleure. Et puis, Philippe Néri s'est mis à faire la même chose. Lui, un laïc, sa ferveur était contagieuse. Il avait une gentillesse, une drôlerie, une finesse psychologique. Et il s'est attaché très vite des bandes de jeunes gens qu'il entraînait dans des excursions aux portes de Rome pour y causer librement de religion et pour prier. Alors, il vivait alors sans le sou, mais il était libre et heureux. Et ses goûts mystiques le poussent à la solitude parfois. Alors il aime, le soir venu, prier dans la campagne romaine, où rien ne vient troubler son recueillement. Puis tout à coup, des extases qui le saisissent, parfois si violentes, qu'il en a la poitrine comme broyée. On dit, c'est un hystérique, un malade mental. Pas du tout, c'était un type profondément intelligent, mais qui a été baigné par Dieu dans des grâces spéciales que Dieu ne semble accorder qu'à quelques rares saints. Ainsi, à la Pentecôte 1544, il sent comme un globe de feu qui lui entre par la gorge et lui brûle le cœur. Et lors de l'autopsie après sa mort, les médecins ont pratiqué au lendemain de sa mort cette autopsie, puis on a constaté que deux côtes s'était écarté. On s'est posé la question, est-ce que c'est de l'anévrisme? C'était comme pour faire de la place au cœur dilaté. Il faut dire que les expériences mystiques sont telles chez lui qu'elles lui arrachent ce cri de temps en temps. Éloigne-toi, Seigneur. Oh oui, éloigne-toi, Seigneur. Retire-toi. Je ne suis qu'un mortel incapable de supporter le fardeau de telle joie céleste. Tellement son bonheur était grand, son cœur se gonflait de joie. Et dans l'iconographie, dans les images du XVIIe siècle, on le représente plus souvent en extase. Corps glorieux qui échappe aux lois de la pesanteur, la poitrine brûlante et dilatée, comme une flamme montant vers le ciel. C'est ce qu'écrit Émile Malle, le fameux Émile Malle, grand spécialiste de l'art religieux. Je vous conseille de lire Émile Malle. Il a publié de nombreux volumes magnifiques sur la représentation du monde de l'invisible. Les saints, le Christ, la Vierge, et tout ça, c'est à travers les siècles des statuaires, des vitraux, des peintures tellement belles. Émile Malle s'est attaché à ça. Alors, à un moment donné, il s'agrège à une société jésuite qu'on appelle la Société du Divin Amour. On parlait déjà de l'amour, beaucoup. Cette Société du Divin Amour se dévoue aux malades et aux incurables. Et c'est là qu'il fait la connaissance d'Ignace de Loyola. Il hésite à faire partie du groupe. Il y renonce parce que on verra plus tard dans sa vie combien sa manière différait de la discipline jésuite. Il rencontre un humble prêtre, un prêtre merveilleux, Persiano Rosa, qui éclaire le choix de Philippe. C'est un homme gai, c'est un prêtre ardent, comme lui. Puis il prend l'habitude de se confesser à ce prêtre, le père Persiano Rosa. Et autour d'eux, quelques laïcs se réunissent pour échanger des idées, prier en commun, puis communier chaque semaine. On communiait rarement à l'époque, mais eux, c'est chaque semaine. Et puis là, en 1548, il a 33 ans, le père Rosa et Philippe Néry proposent d'ériger un petit groupe en confrérie pieuse, chargé de secourir les pauvres, puis en particulier d'aider les pèlerins nécessiteux qui se rendent à Rome pour l'année jubilaire, hein, à tous les 50 ans, l'année jubilaire à Rome. J'y étais, moi, en 1950. C'est fantastique à Rome de voir les foules qui viennent de toutes les parties du monde. Et en l'an 2000, imaginez ce qu'il y aura à Rome, hein. Mettez de l'argent de côté, allez-y, vous allez voir, c'est fantastique. C'est pas facile de loger, par exemple. Alors donc, Rosa et Néry, et Philippe Néry, prennent le nom de la Très Sainte Trinité des Pèlerins. Alors San Girolamo est alors un foyer, c'est là qu'ils habitent, San Girolamo della Città, de la Carità plutôt, c'est bien un foyer intense de vie religieuse. Des grandes figures spirituelles se rassemblent là, et il se passe des choses assez mystérieuses, et finalement, il se fait ordonner prêtre à 36 ans en mai 1551. Il a donc passé la moitié de sa vie presque comme laïc, et l'autre moitié comme prêtre. Il habite donc à San Girolamo, et c'est là que sa renommée s'accroît. À cause de sa personnalité rayonnante, Saint Philippe Néry rassemble les gens. Il y a une atmosphère de ferveur. Il s'installe tous les matins dans le confessionnal, comme il dit, pour tendre ses filets. Il ramasse énormément de pénitents. Son enjouement, sa bonté, son discernement attirent la confiance des pénitents. L'après-midi, on s'est réunis dans la petite chambre du prêtre pour y poursuivre les réflexions du matin. Puis commence, comme la place ne suffit plus, eh bien, on trouve un espace plus vaste, dans les combles de l'église, à l'endroit qui prend le nom d'oratorio, l'oratoire. Et c'est ainsi que se fonde l'oratoire. Et alors là, on parle des dons extraordinaires que le prêtre a reçus, des dons de prophétie, de ses extases. Et lorsqu'il prie, qu'il dit la messe, il est parfois pris en public d'un tremblement si fort qu'il lui faut s'arrêter. Et alors, beaucoup commencent à voir en lui un saint. Philippe Néry, qui fonde une congrégation nouvelle assez spéciale qui s'appelle l'Oratoire. Et dans le prolongement de ses entretiens qui sont commencés au confessionnal, et parce qu'il connaît les tentations qui naissent de l'oisiveté, mais ce saint, je vous ai dit qu'il était plein d'humour. Le rire, la gaieté font partie de ses méthodes, hein, pour conquérir les cœurs. Mais en fait, cette espèce de goût naturel du burlesque puis de la facétie, ça a des racines profondes. Hein? Philippe aime rire, mais aussi se rendre risible par humilité, en quelque sorte pour attirer la moquerie, le mépris des autres. Il dit comme Saint Bernard, « Spernere si ipsum, spernere se sperni ». On pourrait traduire ça par se mépriser soi-même, mépriser être méprisé. Mépriser ER, être méprisé. En somme, de toutes les formes d'amour-propre, l'amour-propre intellectuel est le plus dangereux, dit-il. Et comme il dit, il faut mortifier la résonante, cette espèce de machine qu'on a dans le cerveau. Là. Il lui arrive de feindre, pour cette raison-là, de feindre la bêtise. Il fait comme s'il était un peu bête devant un évêque. Même il multiplie dans son langage les barbarismes devant un cardinal. Il se costume de façon ridicule, il se coupe bizarrement les cheveux. Ça me rappelle, mon Dieu, notre ami Ambroise Fortune qui se costumait de toutes sortes de façons, même à la télévision. Ça ne le gênait pas, à une époque où les prêtres n'enlevaient pas facilement leur soutane. Et puis, Philippe Niri ne procède pas autrement avec ses disciples, hein. Un de ses disciples, qui était toujours somptueusement habillé et qui conservait ses manières de grand seigneur, bien, il lui met dans les bras un petit chien avec l'ordre de le porter 2 heures en public et de lui donner des gâteries. Deux jeunes gens aiment-ils trop les bijoux? Alors, Saint-Philippe Néri les caresse au cou et déclare que ses colliers lui râpent la main. On portait des colliers dans ce temps-là. Et toute son attitude a pour but de dépouiller les jeunes gens qui l'entourent de leur convention sociale, de leur défense. Puis, il veut leur rendre la simplicité. Car, dit-il, l'Esprit Saint habite les âmes simples et candides. Et Philippe prend fréquemment la parole pour faire une remarque ou pour poser une question. Au fur et à mesure que passent les années, il fait lui-même peu de sermons car les tremblements qu'il saisissent quand il parle de Dieu lui ôtent la parole. C'est un mystique étonnant, hein? Et plus tard, la musique monodique qu'il fait chanter à ses disciples, un peu comme chez les Dominicains du couvent Saint-Marc de Venise, de Florence, eh bien, il change ça petit à petit. Et c'est de là, dit-on, que viendrait l'oratorio. De l'oratoire, du mot l'oratoire. Faudrait vérifier ça. Et alors, les Romains sont très très nombreux à le suivre. 2 à 3 000 qui suivent les processions qu'il organise. Il organise des pèlerinages aux 7 basiliques. Il entraîne les jeunes à faire toutes sortes de choses. Et il lutte contre le carnaval, le fameux carnaval du début du carême, hein, la veille du carême. Parce que ça occasionne inévitablement des fêtes qui sont... qui sont souvent très dégoûtantes, on le sait, hein. Ça se passe à Québec, ça se passe à Montréal, ça se passe partout, en particulier à Rio. Hein. C'est terrible ce qui se passe pour célébrer le dernier jour d'avant le carême, c'est invraisemblable. Alors lui, il veut lutter contre ça, parce que c'est un homme authentique. Hein. Alors les foules viennent le dimanche écouter les sermons de notre saint, Saint-Philippe Néri, et ils veulent toucher sa soutane. Il est le plus populaire de tous les Romains, mais ses manières si libres et parfois si excentriques, ça déconcerte beaucoup de monde. Le pape Paul IV, influencé par un conseiller, s'inquiète de ces manifestations, puis il décide, en avril 1559, d'interdire le pèlerinage aux 7 basiliques, par peur d'un affrontement entre les clans des grandes familles de Rome. Et alors, Philippe Néri est convoqué, interrogé, mais il se soumet, puis il dit au pape, « Je suis fils de l'obéissance. » Et très vite, le pèlerinage est rétabli, et l'oratoire qu'il a fondé en sort renforcé. Puis c'est à tour du très sévère Saint Pie V de s'inquiéter de ces promenades plus ou moins étranges, de groupes de jeunes gens qui s'en vont à la campagne. Puis il décide de faire surveiller la prédication. En somme, les méthodes de l'oratoire, où il y a beaucoup d'élan affectif, puis où l'inspiration l'emporte sur le discours raisonné qu'on retrouve dans les autres groupements catholiques, mais ça tranche, hein, avec les prescriptions du pape. Alors, l'enquête dure plusieurs semaines, mais Au terme de cette enquête, la piété de Philippe est publiquement reconnue. Ça lui vaut même l'appui du pape Saint Pie V, qui était sévère. Le pape l'appuie, s'éprend de lui. Et si l'on doutait des bienfaits de sa méthode, eh bien, tous les appels qu'il reçoit pourraient convaincre n'importe qui de l'efficacité de cette méthode fantastique de Saint-Philippe Néri. Et en 1563, les chapelains florentins, Florence de l'église Saint-Jean-Baptiste, réclament Philippe pour l'avoir comme curé, comme recteur. Mais c'est une tâche beaucoup trop grande de s'occuper de ça. Il refuse. Et puis, il préfère la direction générale de ce qu'il a établi. Puis, d'ailleurs, il délègue quelques-uns de ses meilleurs auxiliaires ici et là. Et puis, lui, il préfère. Le pape l'appuie, s'éprend de lui. Et si l'on doutait des bienfaits de sa méthode, eh bien, tous les appels qu'il reçoit pourraient convaincre n'importe qui de l'efficacité de cette méthode fantastique de Saint-Philippe Néri. Et en 1563, les chapelains florentins, Florence de l'église Saint-Jean-Baptiste, réclament Philippe pour l'avoir comme curé, comme recteur. Mais c'est une tâche beaucoup trop grande de s'occuper de ça. Il refuse. Et puis, il préfère la direction générale de ce qu'il a établi. Puis, d'ailleurs, il délègue quelques-uns de ses meilleurs auxiliaires ici et là. Et puis, lui, il préfère vivre ses meilleurs auxiliaires ici et là. Et puis, lui, il préfère vivre simplement toujours là où il a commencé. Et puis, ça consolide son œuvre. Et parmi les règles qu'on a mis au point dans sa communauté, il y en a une que je tiens à vous mentionner parce que c'est bien spécial. Il est écrit: il est interdit, sous un quelconque prétexte, de courtiser ou d'accompagner les cardinaux ou autres personnages importants, car nous sommes au service de Dieu seul. C'est assez curieux. En pleine époque où il faut comprendre que les cardinaux se promènent dans d'immenses carrosses avec des attelages qui peuvent aller jusqu'à 12 chevaux, portent des costumes flamboyants avec des traînes immenses, qui habitent des palais où il y a des dizaines et des dizaines de serviteurs, n'est-ce pas? C'est l'époque de la Rome grandiose où les cardinaux sont extrêmement loin de l'Évangile, même si parfois certains d'entre eux, vêtus de cette façon, sont extrêmement gênés de se promener en public. Essaient de porter des vêtements plus simples, mais ça ne leur est pas permis parce que ce serait attenter à la dignité du cardinalat. Et il y a parmi eux des cardinaux qui sont des saints, revêtus de ces façons, de façon absolument invraisemblable. Je l'ai vu moi-même en 1950, lors de l'année sainte, la grande messe du jour de Pâques, où j'ai vu une quarantaine de cardinaux se suivant les uns les autres avec des traînes de 32 pieds de long. C'était fantastique, c'était un spectacle de toute beauté, je le reconnais. Mais mon Dieu, que les cardinaux doivent être heureux d'être débarrassés de tout ça. Et comme nous sommes heureux, au fond, de trouver aujourd'hui cette Église réformée par le Concile Vatican II, avec beaucoup d'intelligence, car il faut bien lire les textes du Concile pour se rendre compte combien l'approfondissement de notre foi a été magistral. Et nos cardinaux aujourd'hui sont tellement bons et simples dans l'ensemble. Et alors au début des années 70, 1570, eh bien, l'oratoire de Saint-Philippe Néri exerce une influence considérable, si considérable que le pape Grégoire XIII souhaite ériger en congrégation cette assemblée de prêtres et de laïcs qui pratiquent un régime de vie libre et communautaire. Et Philippe n'a nullement pourtant l'intention de fonder un ordre, car à ses yeux, les ordres sont trop nombreux déjà. Il y a les théatins, les compagnons de Jésus, les barnabites, les somasques, etc. Alors il ne songe qu'à la vie spirituelle de ses disciples. Pourtant, sa formule, qui est inédite, est appelée à jouer un rôle essentiel dans le renouveau de l'Église. Le seul lien reconnu entre les associés dans l'oratoire, c'est celui qui naît de l'affection mutuelle. Et la seule règle, dit Saint-Philippe, rien d'autre que la charité. En somme, il veut que ses membres pratiquent la plus haute vertu. La plus haute vertu. Il veut qu'ils offrent un modèle à l'ensemble du clergé. Alors, il est pris dans la construction d'une église qui lui est donnée, c'est-à-dire qui était en ruine, puis il l'a fait refaire, puis elle est très belle. C'est à l'époque où on a bien de finir l'église du Jésus, que certains d'entre vous ont dû voir à Rome. L'église des Jésuites, qui est de toute beauté, hein. C'est le style Jésus, c'est le style baroque, mais c'est grandiose, c'est comme si le ciel nous apparaissait immobile devant nous dans des décorations qui choquaient bien des protestants. Mais parfois bien des catholiques, mais il faut apprendre à aimer ce style qui est fantastique, hein, où les artistes ont déversé tout leur fantastique, hein, où les artistes ont déversé tout leur talent pour essayer de représenter le monde invisible. Alors, Saint-Philippe Néri refuse toute dignité, il refuse le cardinalat, il refuse même d'être appelé supérieur, il ne veut ni serviteur, ni monture, il va à pied, il ne veut pas d'ornements spéciaux, il ne veut pas de privilèges, et volontairement, il choisit de demeurer à l'écart. Au fond, le goût de la vie monastique, peut-être, des bénédictins du Mont Cassin l'habite toujours, mais sa santé devient fragile avec le temps, puis en dépit de ses réserves, eh bien, Philippe insuffle à ses disciples l'esprit qui anime les règles. Des règles toujours discutées en commun. Puis, il prie avec eux. Et puis sa douceur obtient plus que tous les commandements. Puis le seul principe auquel Saint-Philippe Néri tient absolument, c'est le caractère séculier de sa congrégation. Alors, il prétend que les vœux sont pas nécessaires, puis que les associés peuvent garder leurs biens propres pour subvenir aux difficultés financières de certains et se doter ainsi des moyens de pratiquer la charité. Il est vraiment audacieux, vraiment révolutionnaire. Hein? Et alors, le supérieur de la communauté qui le remplace est un étrange personnage. Il s'appelle Bonsignore Caceghera. C'est un ermite, un ancien ermite qui finit par faire un travail fantastique avec lui. Et alors, les finalités de l'oratoire, elles ne changent pas. Elles sont exposées comme suit. La congrégation veut montrer en tous les domaines ferveur de vie, connaissance des lettres, culte divin bien célébré, pratique des autres ministères, pratique intensive des prédications, des confessions, des communions, et cela aussi parfaitement qu'il se peut. Ce que doit être le clergé, surtout dans une vie commune imprégnée d'amour et de paix, et que la règle soit de donner à l'intérieur de la maison et au dehors un exemple de charité, d'humilité, d'obéissance, de patience, d'éloignement de toute fin à prétention mondaine, sans autre but que le salut des âmes rachetées par le sang précieux de Jésus-Christ. Et à la mort de Philippe, de nombreux oratoires vont s'ouvrir à travers le monde, ça va se rendre même jusqu'au Mexique. Hein. François de Sales emprunte en 1599, pas longtemps après la mort de Philippe Néri. Faut dire que Philippe Néri est mort exactement il y a 400 ans. Hein. Il est mort le 24 mai 1595. Sa fête se célèbre le 26 mai. C'était un grand vieillard, maigre et beau de visage, aux cheveux blancs et toujours d'allure excentrique. Son influence est tellement grande durant les dernières années de sa vie qu'il est recherché par les grands seigneurs, les prélats, les cardinaux qui viennent le consulter. Il semble avoir joué un rôle d'importance par l'intermédiaire de son disciple Baronio, qui est devenu cardinal, confesseur du pape, dans l'absolution du fameux roi Henri IV, roi de France, qui était devenu protestant et qui est redevenu catholique, en 1595, l'année de la mort de Saint-Philippe Néri. Parfois, Philippe Néri rend visite lui-même au Saint-Père dans son palais. Les papes qui se succèdent l'entourent de leur affection. Grégoire XIV, Clément VIII voudraient lui offrir le cardinal. Je vous l'ai dit, il l'a refusé. Et dans sa petite chambre, à la fin de ses jours, se nouent les dernières des grandes amitiés avec des gens extrêmement importants. et des jeunes gens aussi viennent le trouver, quelques grandes dames même, auxquelles il prodigue ses conseils, toujours inspirés par l'Esprit Saint. Il lève les scrupules, il balaie les incertitudes, il décèle les fausses illuminations, car c'est toujours le problème des illuminés qui se croient arriver à être des saints, à avoir des apparitions. Il décèle ça facilement, il élimine ça, il encourage les hésitants, et sa prière obtient de nombreuses grâces. Et de toutes les vertus qu'il prêche, n'oublions jamais ça, c'est l'humilité qu'il place au premier plan. « Seigneur, répète-t-il chaque matin, prenez garde à moi, qui vous trahirez et ferez tout le mal imaginable si vous ne me secourez pas. » Si vous ne me secourez pas. En somme, ces règles se situent dans la lignée traditionnelle de l'ascèse, simplicité, pureté de cœur, mais il se défie des excès des austérités corporelles. Il n'en veut pas. « Si vous voulez des excès, dit-il, faites-les plutôt par la douceur, la patience, l'humilité, la charité, qui sont de bonnes choses en elles-mêmes. » Alors, les confessions régulières, il demande ça, car il dit que ça entretient les bonnes dispositions. Quant à la communion, il souhaite à cette époque, à titre très exceptionnel, il souhaite qu'elle soit fréquente, mais il ajoute une condition qui est très importante. N'oubliez jamais ça. Il souhaite que la communion soit fréquente à condition que le désir demeure toujours vivace. N'allons pas communier comme si c'était rien. Pour que le désir soit vivace. Que c'est important. Je crois que c'est le message le plus important de Philippe Néri pour nous, laïcs. Que nos communions soient animées d'un désir vivace. Que nos prêtres aussi montent à l'autel avec un désir vivace. Et Philippe Néri est comme le père Pio, décédé il n'y a pas tellement longtemps, le père Pio, il y a 25 ans. Philippe Néri ne descend que rarement dans la nouvelle église, la Chiesa Nuova de l'oratoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était aussi belle, ou à peu près, que le Gesù, le Jésus des Jésuites, car ses forces l'abandonnent, alors il dit la messe dans sa chambre. La célébration, comme celle du Père Pio, prend plusieurs heures, tant l'émotion le fait trembler. J'ai assisté plusieurs fois à la messe du Père Pio. C'était très long, mais ça n'y paraissait pas. Notre cœur brûlait dans nos poitrines. Quand on le voyait à l'autel, souvent immobile pendant 20 minutes, ne bougeant plus, comme une statue. On est tellement saisi, et notre foi en l'Eucharistie devient tellement grande, qu'on ne trouve pas ça long. Moi, en fait, je n'ai pas trouvé ça long. Tarugi, son disciple, dit, « Il a une palpitation du cœur, comme si sa poitrine était frappée d'un marteau. » Et un autre témoin, lors de son procès de canonisation, qui a commencé 2 ans après sa mort, dit de saint Philippe Néri, d'innombrables fois, je l'ai vu s'élever de terre. » On dira, ben, c'est pas possible. Mais oui, c'est possible. Ça existait bien des fois dans l'histoire de l'Église. Ça existe. Des crises de larmes accompagnent souvent ses états mystiques. Au cours de ses maladies, on doit lui donner secrètement la communion la nuit. Et lorsqu'il boit le calice, il s'écrie, c'est vraiment du sang. C'est donc en 1595, il y a exactement 400 ans, que son état de santé donnait de plus en plus d'inquiétude à son entourage. Au mois de mai, il est pris de fréquentes hémorragies. Puis malgré une rémission, il sait que sa mort approche, il la prédit. Et le 24 mai 1595, donc, après avoir béni ses fils qu'il aime tellement, il s'éteint doucement et après, le lendemain, son corps a été ouvert en présence des médecins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et les pères de la maison. On a connu que Dieu lui avait miraculeusement conservé la vie depuis plusieurs années, car il avait 2 côtes rompues. La veine artérielle ne portait plus de sang aux poumons. Son cœur était d'une grosseur extraordinaire, outre que le péricarde était tout desséché, et sans cette liqueur, n'est-ce pas, comme on disait autrefois, qui tempère la chaleur du cœur. ce qui était venu selon toutes les apparences de ce que l'amour avait consumé son cœur. C'est le saint de l'amour, hein? Et c'était un homme tellement attachant qu'il fut canonisé un peu plus tard, le 14 mai 1622, ça a pris donc quelques années, 27 ans. Les gens auraient voulu qu'il soit canonisé plus vite, mais le pape a préféré attendre qu'il soit canonisé en même temps que saint Ignace de Loyola, Thérèse d'Avila et François-Xavier.